Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Elba pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalba.com. On aurait pu vous parler des activités de plein air de la semaine. En l'occurrence, il y a eu une marche pour le climat un peu partout en France. Samedi 9 avril 2022, environ 200 personnes étaient présentes au Mans. On parle d'un millier à Montpellier, etc., etc. De fait, des dizaines de milliers de personnes se sont manifestées la semaine dernière pour le climat. Mais malheureusement, eh bien, ça n'a pas infléchi l'objet du vote de la semaine dernière, le vote qui va nous occuper un petit peu. Mais avant ça, on aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde. Mi-avril déjà, 9 départements sont touchés par des arrêtés de réduction de l'utilisation de l'eau. Pourquoi ? Eh bien, parce que la sécheresse guette déjà. Par exemple, dans le sud des Deux-Sèvres, exactement là où les agriculteurs productivistes de la coopérative de l'eau creusent des méga-bassines, ces réservoirs géants à ciel ouvert qui sont remplis l'hiver par les eaux de pluie. Mais bon, c'est complété aussi par des pompages dans la nappe phréatique. Eh bien, la préfecture des Deux-Sèvres a mis en place une vigilance à propos des eaux souterraines de cette région du sud des Deux-Sèvres. Il serait intéressant de savoir pourquoi cette vigilance a été mise en place, surtout qu'elle concerne les eaux souterraines, c'est-à-dire ce qui peut-être a été pompé pour remplir les méga-bassines. Il serait intéressant donc de voir s'il y a un lien entre le remplissage des méga-bassines et la précocité des arrêtés de vigilance sécheresse. En avril 2021, il y a un an, seule une toute petite partie du sud du département était touchée par cette vigilance, et en avril 2020, rien du tout. On pourrait voir des cartes comme ça qui se succèdent après année, nous montrant les conséquences du réchauffement climatique. Ah, ça a déjà été fait, d'accord. Donc je me disais, c'était peut-être une bonne solution pour que les gens arrêtent de faire un peu n'importe quoi et se disent, tiens, si on changeait un peu de modèle économique, mais finalement, ça ne devrait pas suffire. Pour se renseigner sur les dégâts de l'agriculture productiviste dont l'objet est bien intégré à l'économie capitaliste, bah oui, puisque c'est la quantité. Plutôt que la qualité, eh bien, allez voir sur bassinenonmerci.fr, bassine au pluriel, BASSINONMERCI.fr, bassine au pluriel nonmerci.fr. On aurait pu vous parler de la gabegie en action, mais vous allez la vivre comme nous si vous habitez à Le Mans. Oui, les 24 heures moto auront lieu les 16 et 17 avril, et donc de 15h à 15h, eh bien, il aura le même bruit que cette semaine pour ceux qui ont supporté les essais, qu'ils soient libres ou pas. Eh oui, c'est la gabegie en action. Eh bien, ça va être l'occasion encore de nous vanter l'attractivité de Le Mans, les bienfaits de ce circuit pour le tourisme local. Et pendant ce temps-là, eh bien, des milliers de litres d'essence vont être gaspillés sur un circuit. Pour quoi faire ? Pour faire des tours. Pour faire des tours, mais le plus vite possible. Ah oui, c'est important, la compète. Là, j'ai du mal. On aurait pu vous parler des cadeaux aux copains de nos soi-disant représentants, le cabinet McKinsey en l'occurrence. Mediapart a sorti un article qui s'appelle « Prestations offertes et jeux d'influence, révélations sur McKinsey et Emmanuel Macron ». Et en l'occurrence, à partir du moment où on apprend dans l'article qu'à partir du moment où Emmanuel Macron est ministre de l'économie, alors capitaliste, hein, mais il le dit pas, comme Bruno Le Maire ne le dit jamais, il parle toujours de l'économie tout court, comme s'il n'y avait qu'un seul modèle économique. Eh bien, Emmanuel Macron, quand il est ministre de l'économie à partir de 2015, eh bien, il reçoit l'aide du cabinet McKinsey qui lui fait des jolis petits trucs, mais gratos. Eh oui, mais forcément, ça s'appelle s'acheter une clientèle. On lui fait des trucs gratuits, et puis ben, à un moment, il se sent un petit peu redevable. On sait également que Emmanuel Macron a préfacé le bouquin de Monsieur McKinsey France, Takeline, qui lui, eh bien, est venu mentir devant le Sénat. Tout va bien. Tous ces gens-là ne se connaissent pas, mais finalement se connaissent très très bien, et ben, ont un intérêt à vivre les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a le système des portes tournantes. Le système des portes tournantes, c'est le revolving doors. Et le revolving doors, eh bien, c'est le fait de passer dans le public, et puis dans le privé, et puis dans le public, et puis dans le privé. Oui, une certaine prune pour soin qui était chargée de la transition écologique a fait son petit tour au gouvernement, et puis elle est repartie. Voilà. Bon, bah ça, c'était une pratique qui était très, très connue dès les années 70-80 aux États-Unis. Et en France, eh bien, ça se multiplie. Donc, on a des gens qui travaillent pour le privé et puis font un petit tour dans le public, hein, au Rennes, dans les affaires. Et puis après, bah, ils repartent dans le privé. et ils reviendront peut-être dans le public, mais en tout cas, à chaque fois, ils partent avec leur carnet d'adresse. Et ce carnet d'adresse leur permet d'être quelqu'un qui est important et peut parfois même de devenir un, non pas un cabinet conseil à eux tout seuls, mais de devenir celui qui murmure à l'oreille des puissants. Donc, les cadeaux aux copains de nos soi-disant représentants, eh bien, il y a une logique, c'est le fait que tout ce beau monde va se retrouver à un moment, soit devant la dinde de Thanksgiving, ou alors soit, eh bien, dans la même boîte quelques années auparavant, et parfois même cette boîte s'appelle la France. Donc, le cabinet de conseil au cœur de la polémique, qui a bénéficié depuis 2017 de contrats contestés, eh bien, a travaillé pour Emmanuel Macron, à retenir quand même. Et si vous voulez plus d'informations, bah allez voir sur Mediapart. On aurait pu vous parler également de professeurs qui ont des petits problèmes. Ils sont mutés de force après un conflit avec leur direction et il apparaît que cette direction, eh bien, les a balancés à un journal d'extrême droite, L'Incorrect, qui a fait ses choux gras avec un article « Le gauchisme à l'école ». Et prenez comme exemple eh bien l'école de Seine-Saint-Denis dont on nous parle. Et à partir de là, eh bien la direction académique des services de l'éducation nationale ne s'est pas foulée et a cherché tout simplement à se débarrasser de ceux qui étaient incriminés dans l'article. Eh oui, comme quoi les campagnes de presse, ça fonctionne. Bah, surtout à l'extrême droite quand même. Ah oui, non, à gauche, bon bah à gauche, il y a moins de relais quand même, que ce soit dans le gouvernement ou dans les directions départementales de ceci ou de cela. Des manifestations ont donc eu lieu les vendredis 8 avril et 15 avril, et puis une petite manif aussi le mardi 12, et il y aura un rassemblement le 20 avril, c'est-à-dire le mercredi 20 avril, un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale. Si maintenant il suffit que dans un article d'un journal d'extrême droite, on vous balance pour que vous soyez balancé, eh bien ça nous laisse augurer de ce qui va se passer quand l'extrême droite sera arrivée au pouvoir. Même si l'extrême centre ne me plaît pas plus que ça. Mais on a préféré. Vous parlez de quoi? Eh bien, vous parlez de radicaux pas libres du tout. En l'occurrence, les deux candidats arrivaient en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril. Et oui, on parle d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pourquoi dire qu'ils ne sont pas libres du tout? Bah d'abord, souvenons-nous qu'ils ont réuni à eux deux 17,9 millions de voix sur les 48,5 millions d'inscrits, soit de fait 37% des inscrits. Et encore, dans les 48,5 millions d'inscrits, eh bien on aurait pu ajouter également ceux qui sont en âge de voter mais ne sont pas inscrits, c'est-à-dire environ 5 millions de personnes. Donc dans les résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont crédités respectivement de 28 et 23%, j'ai enlevé les virgules, soit 51% en tout. Car de fait, à eux deux, ils ont été mis en tête par la moitié des 36 millions de votants. Parce que sur les 48,5 millions d'inscrits, 36 millions sont allés effectivement voter. Donc un quart en moins, c'est-à-dire 25% d'abstention. Et maintenant, eh bien, il faut choisir entre les deux, celui ou celle qui aura une partie du pouvoir exécutif. Oui, simplement une partie du pouvoir exécutif, hein, pas plus. Non, c'est pas Dieu le Père, le président de la République. Faut arrêter un petit peu avec l'envie de l'homme ou de la femme providentielle. Comme le disait De Gaulle, l'élection présidentielle, il faut que ce soit la rencontre entre un homme et une nation. Ouais, mais en fait, on s'en fout de l'homme et il est soi-disant là pour nous représenter. Donc, qu'il nous représente et c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis lui tout seul, comment il peut représenter plusieurs dizaines de millions de personnes? Ça va pas être possible. Donc, c'est pour ça qu'il a un petit bout du pouvoir exécutif. Hein. Il représentera le pays à l'étranger, il inaugurera des dizaines de trucs et de machins, il donnera des médailles aux copains, il gérera le budget de l'Élysée et diverses petites choses. Mais celui ou celle qui aura juste une partie du pouvoir exécutif, eh bien, ce sont des radicaux pas libres du tout. Parce que chacun dans son genre, Macron et Le Pen, sont terriblement attachés au système économique majoritaire en ce moment, produire pour produire, en espérant tout vendre et donc faire un maximum de profit. Avec des valeurs un peu différentes, Marine Le Pen veut protéger, elle, les entreprises françaises contre la globalisation et la concurrence déloyale. Mais par contre, si ça peut exporter, tant mieux. Mais à aucun moment, elle ne remet en cause l'intention de la production. Elle a dans son programme, c'est-à-dire produire pour produire, elle a dans son programme des accents écolos à la mode. Économie circulaire, relocalisation de la production, mais tout est sous-tendu par le souverainisme. Je cite un extrait du livret écologie du programme du parti d'extrême droite, le Rassemblement National. Alors faites attention, éloignez les enfants. La transition écologique inclut la transition énergétique, la transition localiste, la transition économique et financière, la transition industrielle et sociale. Elle ne peut ni disposer d'un chèque en blanc, ni ignorer ses impacts budgétaires et sociaux. Elle ne peut être un facteur de déclassement de la France, de liquidation de ses atouts industriels et militaires, de fragilisation de finances publiques déjà mal en point, et pas davantage le moyen d'en finir avec les indépendants, les artisans, les PME et tout ce tissu local et régional qui résiste à l'uniformisation des multinationales. Voilà pourquoi nous proposons une transition sans endettement public accru et sans hausse d'impôts sur les bases d'investissements fléchés et de transferts fiscaux qui s'équilibrent. Bon, alors là, je vous avouerai que sur la fin, je comprends rien, mais bon, forcément, elle a pas tous les chiffres. Alors, quand elle nous dit comment ça va être financé, ça devient un petit peu flou. Mais de fait, il est bien indiqué que tout produire en France, c'est surtout ne pas produire à l'étranger. Et ça doit pas être cette transition, hein. Elle ne doit pas être un facteur de déclassement de la France, de liquidation de ses atouts industriels et militaires. Voilà ce que nous dit donc le Rassemblement National. C'est bien l'idée qu'il faut absolument que nous restions dans la compétition. Donc, protéger la production nationale pour la grandeur de la France, pas du tout pour produire au plus près de l'usager. Non, quand on parle de localisme, eh bien, si vous habitez à 3 km de la frontière suisse, non, faut quand même acheter français, hein. Même si ça vient de Brest, bah oui, mais c'est français. Donc, ces accents écolos sont totalement en plus démentis dans le reste du programme. Par exemple, la place du numérique. Dans le livret écologique, on peut lire « La transition écologique ne se fera pas par la peur, la mauvaise conscience, la punition. Tous les discours qui font que chacun, de chacun, un coupable quand il prend sa voiture, fait couler un bain chaud ou mange une entrecôte, ont pour seule fonction de ne pas mettre en question le système du libre-échange, la course au moins-disant de la globalisation et la naissance de monopoles privés. Notre politique agira sur les causes. Les accords de libre-échange, explosion du numérique, surprotection des investisseurs au détriment du contribuable, démographie nationale, alors on ne sait pas ce qu'elle vient foutre là, la démographie nationale, destruction de l'État au profit d'agences privées, etc. Oui, gros globi-boulga, hein, au milieu de tout et n'importe quoi. Vous avez entendu que l'extrême droite, représentée par Marine Le Pen, veut s'attaquer à l'explosion du numérique comme une cause de la fin du monde. Eh bien, dans le livret numérique, on peut lire. Mais le numérique, s'il est une source de progrès dans de nombreux domaines, a aussi des aspects négatifs. Philosophiquement, en prenant en charge toutes nos activités que nous ne faisons donc plus nous-mêmes, il nous prive d'autonomie personnelle. Stratégiquement, du fait de la domination de ce secteur par des entreprises américaines et de plus en plus chinoises, ah, là, on revoit l'accent sur le souverainisme. Je continue. La France et les pays d'Europe sont pour l'instant trop dépendants et ne profitent que marginalement au plan économique de la croissance du numérique. Ah, ça, c'est un défaut, ouais. Philosophiquement. La souveraineté de la France et des pays européens est même remise en cause de quatre manières. Bon, bah là, on va pas vous les balancer, les quatre manières, hein. Si ça vous intéresse, allez voir sur la propagande de l'extrême droite. Le numérique, alors, est philosophiquement dangereux. Là, c'est moi qui parle. Mais on lit bien que c'est l'absence de souveraineté qui choque la candidate nationaliste. Si les GAFAM devenaient françaises, eh ben, ça irait beaucoup mieux. Vous vous souvenez que dans le livret écologie, l'explosion du numérique est une cause de la fin du monde. Eh bien, la dernière page du livret numérique nous montre la bobine de la candidate, toute souriante, et une phrase. Celle qu'il faut retenir si on n'a pas eu le temps d'ouvrir le livret, hein, puisque c'est la quatrième de couverture, en fait, cette dernière page. La phrase, la voilà. Élue présidente, je ferai du numérique un secteur prioritaire de l'investissement public. Eh ouais, des contradictions comme ça, qui ne sautent qu'aux yeux de ceux qui veulent bien se fader les programmes, il y en a des kilos. Donc ainsi, la candidate d'extrême droite reste aliénée à l'identité nationale comme seule boussole. L'ensemble du programme doit rendre la France plus puissante, c'est ça l'idée, dans la compétition internationale. Les Français sont alors les instruments de cette grandeur. Leur autonomie s'arrête où commence l'intérêt national. Dans le programme de Macron, on retrouve cet attachement au numérique et à la société technicienne. Et bien sûr, cet attachement à l'écologie. Mais une écologie tellement matinée de capitalisme qu'elle n'a plus aucune chance de modifier la pente catastrophiste sur laquelle nous sommes. Dans le pacte pour la production, l'un des trois volets titres du programme du parti Attrape-tout, La République en marche, représenté par Emmanuel Macron, on peut lire « Transformer l'État par le numérique et réviser sa politique d'achat pour acheter local ». Bon, alors le numérique comme solution miracle, ça s'est déjà vu. Et ça va continuer, puisque la Startup Nation ne jure que par ce genre de petites choses. Et par contre, pour l'achat local, on se demande si ça touche également les conseils, hein, parce que McKinsey France, je me demande si c'est vraiment local. Mais l'essentiel est toujours dans la valeur travail. La population est au service de la grandeur économique du pays, en sachant que l'argent n'a pas de nationalité. Même quand le titre est, donc dans le programme, « Planifier la transition écologique », les mesures n'ont d'autre but que de produire plus pour gagner plus. Écoutez plutôt. Donc, sous le titre « Planifier la transition écologique ». Poursuivre la construction de 6 centrales nucléaires nouvelle génération et le soutien aux énergies renouvelables. Alors, un soutien aux industries des énergies renouvelables serait la formulation la plus pertinente, à mon sens. Puisque quand on nous parle d'énergie renouvelable, on ne nous parle pas d'une petite éolienne installée sur un toit et qui va produire assez pour la maison sur laquelle elle est installée. Non, non, on vous parle de trucs qui font 250 mètres de haut et qui vont produire du mégawattheure en veux-tu, en voilà. Mais en construisant également des parcs éoliens en mer. Avec quoi ? Eh bien, avec beaucoup de béton, beaucoup d'acier, beaucoup de terres rares, beaucoup de composants électroniques, beaucoup de composants informatiques. Oui, parce que l'industrie, ça consomme de la matière. Et donc là, quand on nous parle de le soutien aux énergies renouvelables, eh bien, ça n'est pas concevable autrement que pour des grosses structures. Une grosse structure comme une éolienne de 250 mètres et vous en mettez deux douzaines. Vous les mettez en mer, mais bien sûr, il va falloir couler un petit socle pour que ça tienne et que ça se casse pas la figure lors des tempêtes. Et puis, en plus, comme ça sera attaqué par l'eau de mer, ça va s'abîmer peut-être un petit peu plus vite que les 20 ans pour les autres éoliennes. Mais en plus, il faudra mettre une peinture spécifique par-dessus pour que justement ça essaye d'attaquer un peu moins. Tout va bien. Mais dans le programme de Emmanuel Macron, alors là, moi, je n'ai que le petit dépliant, hein, mais dans son programme, là, quand on nous dit soutien à la construction de 6 centrales nucléaires nouvelle génération et le soutien aux énergies renouvelables, à aucun moment, il n'est posé la question, mais à quoi sert toute cette énergie? Pourquoi la produire? Comment l'utiliser? Est-ce qu'on peut pas être un peu plus sobre? À aucun moment! Et pourtant, il se fait passer pour écolo. Jeudi, il n'a parlé que de ça dans ses déplacements. Ah oui, parce qu'il se déplace maintenant. Bon, pas sur France 2. Hein. Et puis, deuxième point, continuer à investir pour devenir leader de l'hydrogène vert, produire des millions de véhicules électriques et hybrides et le premier avion bas carbone. Produire plus. Leader. Pourquoi? Là encore, l'idée n'est pas de produire pour les usagers, produire avec l'intention de satisfaire des besoins spécifiques définis par les habitants. Non, l'idée est d'être les premiers. Et pourquoi pas d'exporter? Pourquoi pas d'accumuler des richesses? Et pourquoi pas faire grossir le PIB? Et surtout avoir de la croissance. Voilà, le schéma est connu et tellement loin d'une simple vie humaine. Donc on continue dans le programme avec cette histoire de millions de véhicules électriques. Oui, mais quelle quantité de matière pour faire tout ça? Et surtout, dans quel but? Remplacer les véhicules qui existent déjà par des véhicules d'une nouvelle génération? Et qu'est-ce qu'on fait des anciens? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte d'abord qu'ils circulent moins? Si on avait moins besoin de notre véhicule, il circulerait moins, il y aurait moins de pollution. Donc peut-être aussi faire en sorte qu'on améliore les moteurs de manière à ce qu'ils consomment de moins en moins de pétrole. Et pourquoi pas même remplacer tout simplement le moteur par un moteur électrique? Je sais pas, je pose des questions, mais en tout cas, ça nous permettrait de garder la carrosserie, la sellerie, de garder l'ensemble des matières qui ont permis de fabriquer ces véhicules. Je crois pas que ce soit l'idée, hein. Non. L'attitude écologiste, c'est-à-dire adapter ses actions au respect des milieux naturels entre les différentes espèces vivantes, hein, qu'elles soient végétales, animales et autres, eh bien, on en est loin. On est loin d'une attitude écologiste. On est plutôt dans la philosophie libérale toute simple. Laissez faire, laissez passer. Et la combinaison de tous les égoïsmes permettra de générer la plus grande richesse, puisque notre objet sur cette terre, c'est bien sûr de produire la plus grande richesse. D'ailleurs, clairement, l'émancipation de l'être humain n'est pas du tout l'objet du programme macroniste. Ainsi, quand ce programme aborde le thème de l'école, dans la fameuse lettre aux Français du mois de mars, on peut lire. Je vous propose un nouveau contrat social en forme de pacte entre les générations. Pour que nos enfants aient les mêmes chances, nous donnerons la priorité à l'école. L'enseignement des savoirs fondamentaux sera étendu et renforcé. Pour mettre fin aux voies sans débouchés qui créent frustration et gaspillage des talents, les formations dans l'enseignement supérieur tiendront davantage compte des besoins de la nation. Eh ben voilà, formez-vous pour la grandeur du pays, pour lui assurer d'avoir des ressources humaines efficaces. Voilà l'objet de nos vies. On est à 100 lieues de la démocratie, tout comme, bah oui, puisque c'est normalement le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On est à 100 lieues de la démocratie. Tout comme dans le programme de l'extrême droite. Des citoyens éclairés qui prendraient collectivement des décisions au plus près de leurs besoins quotidiens, mais aussi pour continuer d'améliorer la société à laquelle ils participent. Collectivement ? Eh ben non, ça c'est pas le projet des deux finalistes qui restent en course. Oui, j'ai utilisé le champ lexical sportif, puisque ça fait une semaine que dans les médias en cours, on entend parler de finalistes, de compétitions, etc. Oui, il n'y a pas du tout des valeurs qui sont à défendre dans cet objet. Non, tout simplement, une compète avec d'un côté machin, short jaune et tunique verte, et de l'autre côté bidule avec short vert et tunique jaune. Pour l'extrême droite, nous sommes au service de la patrie. Pour les macronistes, on est au service des forces de production. Si on reprend encore un extrait de la fameuse lettre du mois de mars de Emmanuel Macron qui est passée dans la presse, je vous propose un pacte productif qui nous permette de gagner encore en force et en indépendance économique. Ah ouais, on vise l'autarcie alors. C'est dingue. Cela passe par le travail de tous, en atteignant le plein emploi, en assurant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en faisant en sorte que chacun travaille plus au cours de l'existence, avec le recul de l'âge de la retraite. C'est ainsi que nous pourrons poursuivre les baisses d'impôts et financer notre modèle social. Eh ouais, le coup habituel, hein. Si vous voulez qu'on continue à vous protéger socialement, eh bien, il va falloir bosser plus. Ouais, les médicaments seront encore moins remboursés. Oui, bien sûr. Quand vous serez au chômage, vous serez moins indemnisé. Oui, bien sûr, le modèle social en question se casse bien la figure. Mais l'important, c'est quand même la grandeur économique du pays. Les candidats en lice au premier tour avaient été sollicités par des associations et leurs programmes disséqués par les mêmes associations. Sur Mediapart, un groupe a analysé les programmes. Et il en a fait un joli tableau comparatif. Dans ce tableau comparatif, eh bien, il apparaissait clairement les 12 candidats et ce que les associations avaient pu penser de leur programme. Eh bien, on avait L214, politique et animaux, engagement animaux qui est aussi sur les animaux, France Nature Environnement, hein, une fédération d'associations locales qui travaille sur l'environnement, Greenpeace, le réseau Action Climat, The Shifters, qui est aussi sur l'utilisation du numérique, Santé Mondiale 2022, comme le nom l'indique, Notre Hôpital, comme le nom l'indique, Oser le Féminisme, comme le nom l'indique, l'association Hop, Halte à l'obsolescence programmée, la Confédération nationale du logement, qui est une confédération nationale de défense des locataires, et Oxfam France, qui travaille sur le pognon et la façon dont il est dépensé par ceux qui nous ruissellent dessus. Eh bien, dans le comparatif des programmes par les associations, si on prend par rapport à le programme qui est défendu par Emmanuel Macron, eh bien, il atteint rien du tout. Pour Greenpeace, c'est 5 ans de perdu. Pour The Shifters, il est très éloigné, du côté attention au numérique. Du côté des oser le féminisme, eh bien, on en parle comme un féministe washing, c'est-à-dire, regardez, je suis féministe, mais derrière, absolument que dalle. Idem pour Notre Hôpital, il atteint les 0% quand il s'agit de voir la compatibilité entre le programme de Notre Hôpital et puis les mesures qui sont proposées pour la santé, malgré les 20 milliards là qui ont été balancés cette semaine. Ah ouais, parce que cette semaine, c'est on rase gratis. Il n'y a pas de souci. Vous êtes tous là, tous présents. On va tous vous en donner, les gars, mais votez tous pour nous. C'est du grand n'importe quoi, mais ça a lieu tous les 5 ans. Et donc, du coup, là, eh bien, il atteint des 0, des 20, des 10, des 12%. Il est très, très loin avec son programme, Emmanuel Macron, de tout ce que ses associations espéraient. Marine Le Pen, elle est beaucoup mieux, juste sur engagement animaux. Ouais, elle atteint 58% en ce qui concerne le programme qui est proposé par Engagement Animaux et par rapport au programme du Rassemblement National, du programme de l'extrême droite. Alors là, on peut se demander si son amour des chats n'y est pas pour quelque chose. Bon, pour Greenpeace, elle est considérée comme un danger pour le climat, pour ce Shifters très éloigné, pour oser le féminisme, elle est misogyne. Voilà, ça a le mérite d'être clair, etc., etc. Bon, ceux qui étaient les plus compatibles, c'était l'Union Populaire, représentée par Jean-Luc Mélenchon, et Europe Écologie Les Verts, représentée par Yannick Jadot. Pour tous les autres, ils sont bien, bien dans les choux. Eh ben, malheureusement, nous, ce qu'on se tape là au second tour, ce sont les deux dont je viens de parler. Et en l'occurrence, eh bien, ils ne sont pas très très bien cotés. En termes de liberté d'expression, un partout pour les finalistes, puisque c'est le langage du sport qui s'impose. Hein. Mercredi 13 avril, lors d'une conférence de presse, Marine Le Pen présentait son projet diplomatique pour la France. Une militante a brandi une pancarte en forme de cœur montrant Poutine et Marine toutes sourire, tout le monde tout sourire. La militante, dont on apprendra plus tard qu'elle était écologiste, s'est retrouvée plaquée au sol par un membre du service de sécurité de la candidate d'extrême droite, qui s'est fait un petit exercice, hein, tranquillou. Puis elle a été traînée au sol avant d'être porté vers l'extérieur. Alors, à la suite de l'incident, un journaliste posa une question qui ne plaisait pas à la fille de son père. Elle le traita de provocateur et refusa de répondre. Voilà, tout va bien. Donc, en termes de liberté d'expression, eh bien, il faudra bien fermer sa gueule si c'est elle qui arrive au pouvoir. La veille, le mauvais acteur, mais vrai banquier qui nous sert de président de la République et aimerait bien rempiler pour 5 ans, était allé se faire voir à Strasbourg pour haranguer les foules. Comme d'habitude, le public avait été choisi, mais une bande de Gaulois réfractaires avait revêtu des t-shirts « Taxons les riches » et sur l'ISF, et ils ont crié leurs revendications avant d'être évacués par la sécurité et ou des forces de l'ordre, ouais, tant le mélange des genres est à l'œuvre quand un élu se représente. L'un des opposants a fait plusieurs dizaines de mètres tiré par les pieds. La voix des autres n'est pas bonne à entendre pour le Rassemblement National ou La République en marche, mais de toute façon, ça fait 5 ans qu'on le sait. Quand vous allez aux manifs, vous risquez de ne jamais revenir, car elle ne va pas dans le sens... au sens du candidat, pas dans le bon. Quand un militant réclame plus de justice sociale en taxant les riches, les capitalistes adorateurs de la philosophie libérale ne peuvent pas l'entendre et surtout ne veulent pas le mettre en pratique. Sinon, c'est tout l'équilibre d'une société basée sur la compétition qui s'écroule. Ben ouais, ça veut plus rien dire. Quel avantage pour les riches? Comment continuer à promouvoir la méritocratie biaisée dans les faits, quand on sait que la reproduction sociale n'est pas un vain mot? Cette méritocratie qui sert à montrer quelques exemples de réussite sociale de jeunes de banlieue, par exemple, en faisant miroiter à tous les autres que c'est possible, et faisant des autres ceux qui n'ont pas réussi, ben des ratés. Des gens qui ne sont rien, comme les avait qualifiés Emmanuel Macron en juillet 2017. Alors que faire? Eh ben, déjà faire autre chose que de devenir un rouage dans la production de croissance du PIB et un pion de la puissance nationale. Dès dimanche, plusieurs manifestations ont eu lieu en réaction aux résultats du premier tour. Ils étaient une centaine à Nancy, 150 à Lyon, 600 à Rennes. À Auxerre, des militants de l'Assemblée populaire d'Auxerre ont fabriqué des mannequins de chiffon qui sont allés se faire pendre sur la passerelle de la liberté à Auxerre. Ces mannequins, au nombre de 4, représentaient la justice sociale. Eh ouais, c'est pas dans le programme des deux, hein. La justice fiscale, idem. La justice climatique et la justice démocratique. Des affichages anarchistes pour l'abstention en ville et à la fac ont été observés au Mans. Et il y a également cette semaine des occupations étudiantes, hein, l'ENS, Sciences Po, la Sorbonne, etc. À voir si ça prend. Ce samedi, des manifestations ont lieu dans toute la France contre l'extrême droite, mais aussi pour la justice climatique, la justice sociale. Contre Macron à Lyon, ah bah ça c'est l'extrême droite qui appelle à manifester. À Tours, à l'occasion de l'entre-deux-tours des présidentielles, alors qu'une récente agression fasciste a entaché les rues tourangelles, un rassemblement contre l'extrême droite aura lieu samedi 16 avril à 14h, place Jean Jaurès, ça c'est à Tours. Et pour Le Mans, eh bien c'est à 14h, même s'il y en avait déjà une à 11h ce matin. Un pique-nique en ce moment à la préf. Donc, pour Le Mans, à la préfecture, rendez-vous donc à 14h, samedi 16 avril 2022. Juste le temps de manger un petit truc sur le pouce et zou, on y va. Le lundi 18 également, eh bien, il y aura une assemblée populaire ingouvernable qui aura lieu à 19h au Chaudron, c'est-à-dire à la maison des syndicats et des associations. Ne pas se laisser faire, ne pas rester simplement en ce que l'on voudrait que l'on soit, c'est-à-dire... Tout simplement quoi? Eh bien, tout simplement des rouages dans un appareil productif ou alors des bons petits soldats de la Révolution nationale. Pour ce faire, moi, je vous conseille de relire la grève la grève des électeurs de Octave Mirbeau, qu'il écrivait en 1888 dans Le Figaro. Et puis, bah, dès le 26 avril, il y a l'idée de grands mouvements, le mardi 26 avril, de grands mouvements. Pourquoi? Eh bien, pour montrer que nous ne sommes pas simplement juste des appareils de production ou alors des bons petits franchouillards. Eh ben, en attendant, allez voter la semaine prochaine. Oui, allez voter pour qui, pourquoi, contre qui, contre quoi. N'oubliez pas qu'il y a des boutons comme par exemple le vote blanc pour dire que ouais, j'aimerais bien décider, mais décider entre la peste et le choléra, ça va être un tout petit peu difficile. Attention, J'ai pas dit qu'ils étaient identiques, mais il n'empêche que tous ceux qui ont lutté contre les lois travail juste avant quand il était ministre de l'économie, ceux qui ont lutté pour les gilets jaunes, ceux qui ont lutté contre, enfin pour la justice sociale et contre l'injustice, eh bien ils ont vu que c'était parfois difficile même sous un démocrate progressiste comme Emmanuel Macron. Allez, on va se dire tout simplement à la prochaine fois, hein. On espère tout simplement qu'il y en aura une. Alors, on vous dit tout simplement au revoir.